Chapitre 16. Simone n'imita pas son mari, ce dont elle fut très fière, le mariage ne devant pas étouffer la personnalité. Elle écrivit à Juliette et, pour masquer son embarras, le fit tout de suite afin de pouvoir prendre le ton plein d'honnêteté des réponses faites par retour du courrier. Elle ne fit pas la moindre allusion à Charles. Elle feignit d'ignorer qu'il avait reçu, lui aussi, une lettre. Ce faisant, elle disait implicitement que les choses ne se passaient pas de la même façon quand on s'adressait directement à elle. Elle montrait qu'il y avait deux personnes dans le ménage et que si la négligence et la faiblesse de l'une attiraient des complications, il n'en était pas de même avec l'autre. Puis elle parla de Maurice, mais de cette façon étrange que nous avons en parlant d'un être cher à quelqu'un qui a sur lui plus de droits que nous. Il avait 27 ans. Il était grand temps de s'occuper de son avenir. Elle promit d'y réfléchir, de faire des démarches, de parler du jeune homme à des amis, de se renseigner, tout cela sans laisser paraître le moindre sentiment pour Maurice. À la lettre vague et hypocrite qu'elle avait reçue, elle répondait avec la bonne volonté sympathique d'une personne qui ne voit de petitesse nulle part et à qui ses efforts n'apportent rien d'autre que la satisfaction du devoir accompli. Cela ne manquait pas de noblesse. Elle s'en rendit compte avec plaisir. Aussitôt après, elle fut cependant prise de découragement. Après un mariage comme le sien, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle se réjouît de donner d'elle-même une idée avantageuse. Elle avait maintenant des satisfactions de femme qui a mal conduit sa barque, comme on dit, et qui vieillit. 6 semaines s'écoulèrent. Simone avait complètement oublié Juliette, Maurice, les promesses qu'elle avait faites. On était en avril. À Fontbonne, un jury de commerçants venait d'élire la reine du Muguet. Quand il ne pleuvait pas, Simone et son mari allaient se promener, après le déjeuner, dans la forêt. Comme dans les unions bizarrement assorties, ils se forçaient à aimer la nature, à découvrir les germes de vie aux branches en apparence mortes. S'il n'était pas dans l'ordre socialement, il l'était du moins en profondeur. Il y avait donc 6 semaines que Simone avait écrit à Madame Béquillat lorsqu'elle reçut une nouvelle lettre, de Maurice cette fois. Elle fut surprise, aucun temps ne passant aussi vite que celui qui suit nos promesses. Maurice était censé écrire de son côté. Il avait fait sur un papier à marbrure bleu ciel, à bords débarbés, et dont le format, par élégance, était celui d'un rectangle allongé. Il s'excusait de n'avoir pas écrit plus tôt, mais il avait craint d'être importun. Il annonçait qu'il allait faire son possible pour retourner à Fontbonne avec les beaux jours. La lettre était écrite avec liberté. Elle ne contenait pas un mot pour le père. Elle ressemblait un peu à une lettre d'homme d'affaires, d'avocat, de médecin, de ceux, enfin, qui s'adressent à des gens de haute condition, sans changer les formules habituelles, comme si, dans l'exercice de leur profession, ils n'avaient pas le loisir de faire des distinctions. Simone comprit tout de suite que cette lettre n'avait d'autre but que de lui rappeler ses promesses, et elle n'en parla même pas à Charles. Elle n'y répondit pas non plus, mais quelques jours plus tard, elle prenait la décision d'aller voir M. Veil. Chaque fois qu'on lui demandait un service, elle agissait de cette façon, c'est-à-dire qu'elle faisait ce qu'on attendait d'elle, mais seulement après avoir donné l'impression qu'elle ne le ferait pas. M. Veil avait été cet ami de la famille auquel on recourt dans les occasions les plus diverses, sans que jamais il se lasse. Il n'y avait pas que Simone chez les Abricourt, qui fut ce qu'on appelle une originale. Son père, ses sœurs, son frère avaient montré, eux aussi, en de nombreuses circonstances, leur incapacité à se conduire dans la vie. Ça avait toujours été M. Veil qui, en fin de compte, avait redressé les situations les plus compromises. À la mort de M. d'Abricourt, des contestations entre les héritiers lui avaient permis d'entrevoir que la fortune de son ami était moins importante encore qu'il n'avait cru. Comme il n'avait pas les mêmes raisons de s'intéresser aux enfants qu'au père, il espaça les relations. Mais ceux-ci n'avaient jamais eu tant besoin des conseils de M. Veil. Ils n'éprouvèrent aucune gêne à le relancer sans cesse. Ils le firent avec maladresse. La vie insouciante qu'ils avaient menée jusque-là ne leur avait pas permis de discerner quels étaient les exacts rapports de leur famille et de M. Veil. Ils crurent que ce dernier avait, ils ne savaient quelle dette de reconnaissance vis-à-vis de leur père, et que les conseils qu'il lui avait toujours prodigués en étaient en quelque sorte le remboursement. Aussi, sans se soucier de respecter une retraite que M. Vell avait mis sur le compte de son âge avancé, continuèrent-ils à aller le consulter, s'étonnant même qu'il ne mit pas plus d'empressement à les guider. Un jour, ils allèrent jusqu'à lui reprocher de ne pas les avoir engagés avec plus d'énergie à faire une opération de bourse qui était apparue par la suite lucrative. M. Vell comprit alors que la gêne vers laquelle il voyait les enfants de son ami s'acheminer infailliblement allait lui être imputée, et il rompit complètement, sauf avec Simone. Un mariage d'amour, qui était devenu au triomphe de tous un mariage malheureux, des soucis d'argent, l'hostilité irréfléchie des siens, l'avaient rendu plus apte à comprendre ce qui se passait en dehors de sa famille. À la mort de son père, au lieu de s'imaginer, comme ses sœurs et son frère, que les amitiés des parents se transmettent aux enfants, elle avait cherché à garder celle qu'elle sentait inconsciemment devoir lui être utile un jour. Elle était allée se confier à M. Vell. Au lieu de lui demander conseil sur la façon de placer avantageusement son argent, elle avait parlé de ses peines, de ses projets, de ses espoirs. Un peu avant son mariage, au lieu d'essayer de faire passer Charles Digoin pour ce qu'il n'était pas, elle avait dit la vérité. L'homme avec lequel elle comptait terminer sa vie était un campagnard. Il n'avait aucune instruction, aucun don particulier. Sa fortune était insignifiante. Mais c'était un brave homme qui avait pour elle une admiration enfantine. Il avait souffert toute sa vie de la médiocrité d'une condition d'où il n'avait pas eu la force ou l'intelligence de sortir. Aujourd'hui, il croyait vivre un rêve. Elle commettait peut-être une faute en se remariant. En tout cas, elle n'en rendrait personne responsable et en subirait seule les conséquences. M. Vell avait été touché par ses confidences, d'autant plus qu'elle n'était pas telle qu'il dût prendre position. Puis il avait vu dans cette confiance un moyen d'ôter à sa rupture avec la famille Abricourt ce qu'elle pouvait avoir d'égoïste au moment où les ennuis d'argent allaient faire leur apparition. En gardant de bonnes relations avec le membre de la famille qui passait justement pour devoir être le premier à souffrir de ses ennuis, il ne pouvait être soupçonné d'avoir rompu par crainte d'être sollicité plus tard.